pour son jeune. Ils sont jeunes et incarnent l'avenir. Leur quotidien, préoccupation, ambition, c'est dans 100% jeune. L'orientation scolaire et académique, l'entrepreneuriat et l'emploi, une émission de jeunes, pour les jeunes et avec le jeune. Tous les vendredis à 6h30, 13h30 et 20h30, le lundi à 9h15.
Comment répondre lors d'un entretien d'embauche? C'est le thème du magazine Okapi Service des Séjours. Vous savez, l'entretien d'embauche est un moment privilégié dans votre recherche d'emploi au cours duquel le recruteur veut s'assurer que vous êtes bien le candidat indiqué pour le poste. Alors, il va vous soumettre à une série, il va vous poser certaines questions. Et certains candidats sont éliminés parce qu'ils ne savent pas bien répondre aux questions du recruteur. Alors, quelles sont les questions que l'on pose souvent, les questions qui reviennent souvent lors d'un entretien d'embauche, et comment répondre? Quelles sont les questions pièges? Comment y répondre? Eh bien, nous aurons des réponses à toutes ces questions avec notre invité, Dr Yves Daniel Ngavan. Il est expert en ressources humaines. Dr Yves Daniel, bonjour.
Oui.
Bien, avec vous aujourd'hui, nous parlons de l'entretien d'embauche. Comment répondre lors d'un entretien d'embauche? D'abord, la première question de savoir, c'est qu'est-ce qu'on entend par entretien d'embauche ou interview?
Merci beaucoup. Je dis, c'est qu'il faut reconnaître que l'entretien d'embauche fait partie des éléments du processus de recrutement. Donc, lorsqu'une entreprise à un moment de sa vie veut améliorer sa performance ou encore avoir de nouvelles unités, doit recourir au recrutement. Et le processus de recrutement qui a généralement trois phases. Premièrement, c'est la phase de la présentation de l'offre où l'entreprise exprime le besoin. Mais ensuite, la phase de la sélection dans laquelle nous trouvons effectivement l'entretien d'embauche, qui est en quelque sorte un échange entre la personne qui veut décrocher un emploi et l'employeur qui veut le connaître davantage afin de voir s'il y aura compatibilité de travailler ensemble. Donc en termes définitionnels, l'entretien d'embauche, c'est ces moments d'échange entre futur employé et son employeur, afin de se mettre d'accord sur les modalités opérationnelles de pouvoir travailler dans les prochains jours s'ils arrivaient à se mettre d'accord sur un certain nombre de points. Voilà.
Voilà. Et quelles sont les questions que l'on pose régulièrement, souvent lors d'un entretien d'embauche?
Avant de parler d'abord de questions, j'aimerais dire que l'entretien d'embauche, nous pouvons subdiviser ça en trois phases pour permettre une meilleure compréhension d'une personne qui doit faire face à cette épreuve, qu'on doit nécessairement travailler ou s'y prendre avec beaucoup de sérieux, parce que tu sais que lorsque nous postulons, jusque là, nous bénéficions de ce que nous appelons la présomption de connaissance.
Oui.
Donc cela ne veut pas dire que comme tu as présenté un diplôme ou que tu as nécessairement des compétences ou des connaissances par rapport à ces titres de diplôme. Donc c'est lors de l'entretien d'embauche qu'on arrive à découvrir la vraie personne qui a postulé il y a quelques jours ou quelques mois. Donc il y a trois étapes essentielles avant de parler des questions. Premièrement, c'est l'étape de la préparation. Et cette préparation qui prend trois éléments, la préparation technique. Dans la préparation technique, c'est là où le candidat doit revoir encore ses notes. Quand je parle des notes, c'est par rapport à tout ce qu'il a pu envoyer, qu'est-ce qu'il avait envoyé à son temps comme information au recruteur, mais également de prendre connaissance encore de la société ou de l'entreprise pour laquelle il a postulé il y a quelques temps. Parce qu'à l'interview, comme tu parlais déjà des questions, on va te poser par exemple une question de savoir comment tu as pris connaissance de l'offre.
Oui.
Ou encore qu'est-ce que tu de notre entreprise.
Mm-hmm.
Donc c'est lors de la phase de la préparation déjà que le candidat doit se munir de toutes ces informations. Je peux te donner un exemple rapidement. Il y a quelqu'un qui arrive à l'UNICEF, on lui pose la question: l'UNICEF signifie quoi? Il dit: bon, l'UNICEF c'est pour les enfants. Donc vous comprenez que
oui,
la personne ne connaît même pas ce qui signifie UNICEF. Il dit: l'UNICEF c'est pour les enfants. Donc, or, si lors de la première phase, qui est qu'on appelle la phase de la préparation, il avait su mettre en place les éléments techniques pour revoir tes notes, revoir les informations sur l'entreprise. Ça allait être une bonne chose, mais cette préparation, elle est aussi psychologique ou mentale, parce que c'est pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui doit aller pour la toute première fois à l'interview, il doit se préparer mentalement à faire face à cette épreuve, parce que le moindre doute, l'excès de stress peut faire à ce que vous pouvez être disqualifié. Et déjà, dans les offres, on demande de plus en plus, on a besoin de gens qui peuvent travailler sous pression et avec le stress.
Oui.
Donc si tu ne t'es pas préparé mentalement ou psychologiquement à affronter l'épreuve, on trouve que tu es tout le temps stressé et ça peut déjà te mettre mal à l'aise. Et aussi, cette préparation se passe sur le plan physique ou sur le plan comportemental. Donc il y a certains gestes qu'il faut vraiment éviter lorsque on doit aller à l'interview, à l'entretien d'embauche. Mais la deuxième phase, c'est vraiment la phase de l'entretien proprement dit,
oui,
qu'on appelle la phase d'assurance. Ici, on veut que le candidat assure à toutes les évaluations qu'on vous fait passer pendant l'interview proprement dit. Il y en a plus ou moins quatre. Premièrement, on vous évalue sur le plan de la personnalité. Donc là, il y a les aspects de la présentation. Les questions qu'on pose généralement, c'est présentez-vous, parlez-nous de vous. Dans ces moments-là,
alors, à cette question-là, comment répondre quand on vous dit de vous présenter, par exemple?
Trois choses. Donc, premièrement, vous donnez votre identité, votre nom. Deuxièmement, vous donnez votre qualification au regard de l'offre. Et troisièmement, vous faites un petit résumé de votre expérience ou de votre expertise. Donc voilà, il n'y a que ces trois choses. Et dans l'identité, ce n'est pas faire le chapelet de votre CV. Je suis tel, l'enfant de tel, né à tel village, territoire, ainsi de suite. C'est donner juste nom, poste, nom. Ensuite, vous donnez votre titre et vous faites le résumé de votre expérience ou de votre expertise. Et ça doit vous prendre tout au plus une minute, 30 ou 40 secondes.
Mais il y a certains candidats qui sont tellement imbus d'eux-mêmes, ils donnent beaucoup de titres et parfois ils disent parfois des choses qui ne sont même pas vraies.
Mais là, vous êtes carrément à côté si vous aventurez à faire de telles choses, parce que comme je l'ai dit très souvent et c'est écrit dans mon livre Passeport à l'emploi, parce que la question de l'interview, c'est le tout dernier chapitre de livre que j'ai publié l'année passée, que les auditeurs peuvent venir chercher à notre bureau à l'Université Bell Campus. Donc, lorsqu'on postule, vous pouvez avoir 10 titres académiques, mais ce n'est pas que vous devez répondre tous les 10 titres à chaque fois que vous êtes en train de postuler. Non, vous devez chercher des titres qui ont un lien direct ou qui donnent la possibilité de capitaliser ou de se rapprocher de l'offre qui est en face de vous. Donc, restez vraiment dans les éléments essentiels par rapport à l'offre au lieu de faire une panoplie de citations qui peuvent vous mettre mal à l'aise. Oui.
Et vous avez dit également qu'il faut bien connaître l'entreprise là où vous voulez travailler, parce que certainement les questions ne vont pas manquer sur l'entreprise et peut-être la manière dont elle est structurée.
Tout à fait, parce que lors de l'entretien pour Primadit, la deuxième évaluation par l'évaluation de la personnalité où on évalue la capacité de se présenter, la gestion des défauts et la gestion de qualités. On vous pose la question, par exemple, quels sont vos défauts, quelles sont vos qualités. Il y a ce qu'on appelle l'évaluation de la conformité. Et dans cette évaluation de la conformité, c'est pour voir si vos aspirations cadrent avec la vision de cette entreprise. Parce que vous ne pouvez pas venir travailler dans une entreprise rien que pour se remplir le poche d'argent. Mais on veut aujourd'hui qu'un professionnel puisse d'abord être passionné du travail pour lequel il est en train de vouloir faire. Donc, il est important de connaître l'entreprise, parce que quand on connaît l'entreprise, on connaît sa vision, on connaît la mission, on connaît les valeurs organisationnelles de cette entreprise. Et si c'est compatible avec ce que vous avez, je pense que vous serez un agent qui peut apporter un peu plus ou qui peut arriver à la performance lorsqu'il va travailler dans cette entreprise.
Voilà, et où est-ce qu'on peut trouver toutes les informations relatives à cette entreprise avant de se présenter à un entretien d'embauche?
Oui, aujourd'hui nous avons beaucoup de chance parce qu'il y a d'abord l'Internet. La plupart des entreprises qui se respectent aujourd'hui au moins pas de site mais de page web ou qui le renseignent. ou tout au plus, lorsque on publie l'offre, vous voyez le nom de l'entreprise, on donne toujours l'adresse. Vous pouvez vous y rendre pour poser la question, de savoir un peu, je vais me renseigner sur l'entreprise X qui recrute, qu'est-ce que vous faites concrètement, je voulais avoir une idée. Je pense que dans toutes les entreprises, il y a au moins des services de communication, voire même à la réception, où on peut vous donner au moins de grandes lignes de l'entreprise. Donc, soit vous pouvez faire une descente sur terrain, soit vous pouvez aller rechercher l'entreprise sur à l'internet. Donc, vous pouvez en ce moment-là avoir un peu plus d'informations et surtout l'actualité. Parce que j'ai vu dans certains entretiens, comme je suis également recruteur,
oui,
où on pose la question comment vous avez pris connaissance de notre entreprise. Il y a des gens qui disent non, moi je ne sais pas. On m'a tellement dit que vous étiez en train de recruter et j'ai déposé ma candidature, j'ai tenté aussi.
Oui.
Mais nous avons vu également des gens qui ont donné même l'historique de l'entreprise, qui ont situé même là où l'entreprise se retrouve dans le monde. Et même le dernier performance de l'entreprise sur le plan de chiffres économiques, ainsi de suite. Et là, ça a émerveillé également tous les recruteurs pour voir que les candidats s'intéressent sérieusement à l'entreprise, jusqu'au point où ils connaissent même le détail sur le nom de fondateur de l'entreprise, la date de la création. Donc c'est toujours des éléments importants à connaître lorsqu'on parle à l'entretien d'embauche.
Comment répondre lors d'un entretien d'embauche? On en parle avec Dr Yves-Daniel Gavan, expert en ressources humaines. Vous voulez participer? Appelez au 099 706 63 94, 099 706 63 94. N'attendez pas les dernières minutes, appelez déjà dès maintenant pour poser vos questions à l'invité. J'ai devant moi déjà quelques réactions des auditeurs recueillies sur la page Facebook du magazine Okapi Service. Alain Ewesi Maurice nous a écrit depuis Dar es Salaam. Il nous dit ceci: quel comportement un candidat peut afficher devant un employeur, devant les recruteurs, lorsqu'il se rend compte que les exigences du poste sont loin de ce qu'il possède comme qualification? Par exemple, il veut être recruté à un poste de sociologue alors qu'il est juriste. Hein, comment doit-il présenter les choses pour être retenu?
Oui, je pense que je l'ai dit d'entrée de jeu. L'entretien d'embauche, c'est parmi des éléments charnières dans le processus de recrutement. Et je crois que j'ai toujours demandé aux candidats, voire même dans les livres, que ça ne sert à rien de s'aventurier dans le monde professionnel. Je donne un exemple. Tu n'es pas médecin, mais tu achètes une blouse blanche et tu, comme les médecins sont en grève, excusez-moi, tu vas à l'hôpital, tu dis, je vais profiter un peu de ce temps mort pour opérer des gens. Donc, mais tu es un véritable assassin. Donc, ce n'est pas du fait que tu vas porter la blouse blanche qui fait de toi un médecin. Donc, l'incompatibilité, on doit soigner ça en amont. Si tu sais que déjà tes postes, tu n'as pas suffisamment d'informations, je te conseille d'aller déjà aller apprendre avant de postuler. Mais si tu ne le fais pas, on va juste constater déjà que tu auras un comportement désagréable. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui vient à l'interview doit avoir un comportement serein. C'est un homme qui est calme, un homme qui est posé, un homme qui est prêt pour cet échange et répondre correctement plus ou moins aux questions qui seront posées. Mais si tu sais déjà que des choses pour lesquelles tu vas écouter, tu ne comprends pas, premièrement, on va sentir que tu es stressé, tu vas commencer à trembler et tu donneras des réponses qui n'ont rien à voir avec le sujet et à ces moments-là, donc tu ne te donnes même pas la chance de pouvoir décrocher quelque chose. Donc, je demanderai à notre ami, je crois que aujourd'hui le monde est plus ou moins organisé et professionnel.
Oui.
On ne peut faire que ce qu'on maîtrise et ce qu'on aime. Donc voilà un peu ce que tu peux lui dire.
Bien, une autre question qui revient souvent et une question à laquelle beaucoup de candidats à un poste ont du mal à répondre, c'est la question de savoir combien vous voulez qu'on vous paye. Hein, vous venez, quelles sont vos prétentions salariales? Comment répondre à une telle question d'un recruteur?
Oui, merci beaucoup. Cette question passe à travers l'évaluation qu'on appelle l'évaluation des convenances, qui fait partie de l'assurance que le candidat doit donner lors de l'entretien proprement dit. En ce qui concerne la rémunération, il faut savoir que le salaire fait partie des éléments de la rémunération et que lorsqu'on doit discuter de cette question, j'ai toujours dit il y a trois éléments qu'il faut retenir. Premièrement, le salaire, on vous paye pas parce que vous avez beaucoup de problèmes dans votre famille ou que vous êtes quelqu'un qui est en difficulté, mais on vous paye proportionnellement aux compétences, aux services que vous allez rendre à l'entreprise. Et on doit être sérieux. Donc, si tu n'as jamais travaillé et tu travailles pour la première fois, il ne faut pas exiger des salaires exorbitants, tout simplement parce que tu as vu que l'entreprise a des beaux bureaux, a ceci. Il faut être conséquent. Pourquoi ? Premièrement, on doit tenir compte des niveaux d'études lorsqu'on doit se fixer, on veut parler de la rémunération. Deuxièmement, on doit parler également, on doit tenir compte de son expérience aussi, de ce qu'on compte apporter. En ce moment-là, la meilleure façon de répondre à cette question, ce n'est pas de donner un tel chiffre, par exemple, je veux 300 dollars, mais vous faites d'abord allusion en amont à votre diplôme, à vos compétences, mais vous donnez une fourchette. Vous dites par exemple, voilà, je veux une rémunération qui se situe entre 200 et 250 dollars ou 300 dollars. En ce moment-là, tu laisses une ouverture en termes d'échange avec le recruteur. Mais carrément, vous pouvez aussi ne pas donner lieu aux chiffres ou de reposer la question. Parce que c'est un échange, vous pouvez demander au recruteur de savoir qu'est-ce que l'entreprise a prévu, parce que avant de pouvoir publier l'offre, l'entreprise a pris soin de réunir tous les éléments nécessaires et ils sont à même de connaître également le montant pour lequel ils ont prévu pour payer la personne qui sera retenue. Donc, vous pouvez reposer la question à l'entreprise pour savoir qu'est-ce qu'ils ont prévu parce que c'est un échange.
Oui.
Mais aussi, vous pouvez faire une proposition pour avoir une discussion autour de cela. Voilà.
Bien, nous avons Aline Kapala depuis Moba. Bonjour.
Bonjour, monsieur, aujourd'hui, bonjour.
Veuillez réduire le volume de votre radio, Kapala, ou bien veuillez vous en éloigner pour éviter les effets, le retour à l'antenne. Je crois que c'est déjà fait. Et allez-y, maintenant, quelle est votre question, Kapala?
Oui, merci beaucoup, monsieur, aujourd'hui. Bonjour aussi, docteur Yves Daniel Ngamba, et à tous les auditeurs de Locapi Service. C'est un grand plaisir pour moi, monsieur, aujourd'hui. Comme vous avez l'expert en ressources humaines, Dr Yves Daniel Ngamba, je m'adresse directement au docteur. Est-ce que docteur Yves Daniel Ngamba, les complexes d'insécurité et de supériorité ou encore la discourtoisie peuvent m'empêcher à être embauché tant que je suis compétent? De deux, docteur Yves Daniel Ngamba, je vous ai entendu parler de trois phases, entre autres, phase de la préparation et la phase d'assurance. Dans la phase d'assurance où il y avait la personnalité, la présentation ainsi que la qualification. Mais je ne vous ai pas entendu parler de la troisième phase. Merci, docteur Daniel Ngamba.
Voilà, c'est Yves Daniel Ngamba. Docteur, vous avez la parole.
Oui. Oui, merci. Je pense que aujourd'hui, lorsque on parle d'un professionnel, on reconnaît un professionnel par trois choses. D'abord, un professionnel, c'est quelqu'un qui a le savoir. Deuxièmement, c'est celui qui a le savoir-faire. Et troisièmement, c'est celui qui a le savoir-être. Donc, je pense que si on ne sait pas réunir ces trois S, il est difficile que vous soyez agréé comme un professionnel. Donc, vous avez encore un capital d'employabilité vide ou déficitaire. Donc, je pense qu'il y a certains comportements que nous ne devons pas afficher, peu importe les compétences, parce que pour être accepté, on doit réunir ces trois choses. Tu peux avoir un diplôme, c'est bien, tu as les savoirs, mais tu peux même maîtriser quelque chose, mais si tu as un comportement désagréable dans la société, je crois que vous n'aurez pas de chance à vivre dans une entreprise pour longtemps. Donc, nous devons soigner tous les détails lorsque nous voulons accéder effectivement à des grandes responsabilités sociétales, notamment en ce qui concerne le domaine de l'emploi. Alors, il a voulu que je parle de la troisième phase, bien sûr, mais en restant toujours dans la deuxième phase, d'abord avant de finir rapidement, parler de la troisième phase.
Oui.
Je parlais de la phase d'assurance par rapport aux différents tests. Le test de personnalité, le test de l'évaluation de personnalité, l'évaluation de la conformité aux exigences du poste, parce qu'on doit se rassurer que les tâches qui ont été présentées, vous êtes en mesure de les assumer. On vous posera par exemple la question sur l'expérience, ou dites-nous un peu, quand on parle de planifier une activité, qu'est-ce que vous entendez par planifier une activité par exemple? qui fera partie de votre tâche demain, voir un peu comment vous pouvez réagir. Mmh. Il y a aussi l'évaluation de la convenance. Là, nous avons parlé de la question de salaire, mais il y a aussi l'évaluation en termes de motivation pour voir si vous êtes passionné par ce travail. On vous pose la question, par exemple, qu'est-ce qui vous a poussé à postuler ou qu'est-ce qui vous motive à postuler
à vouloir venir travailler à chez nous.
Voilà, donc c'est une question, ça fait partie de l'évaluation de la motivation. Et à cette question, s'il faut répondre correctement, il ne faut jamais dire que non, c'est parce que je ne travaille pas, je suis au chômage pendant 5 ans, et quand j'ai vu l'offre, je me suis dit, bon, je tente ma chance. Non, quand on te dit qu'est-ce qui te pousse à venir travailler chez nous, l'entreprise veut voir le seuil de motivation et surtout ta passion par rapport à ces secteurs, par rapport à la vision de l'entreprise que tu connais et au regard des compétences que tu disposes. Donc, tu diras par exemple, non, j'ai postulé parce que ces postes m'intéressent, ces secteurs, je suis passionné par ces secteurs et en plus, je détiens un certain nombre de compétences capables d'être très utiles et de faire un bon travail une fois que ce poste m'est accordé. Donc, on ne dit jamais que non, j'ai postulé tout simplement parce que j'ai vu qu'on a affiché et que moi aussi, je tente ma chance.
Donc, certains candidats peuvent dire « j'ai postulé parce que je suis orphelin des pères et des mères, nous souffrons, en tout cas, donnez-moi n'importe quoi, je suis prêt à le faire parce qu'on souffre énormément et Dieu vous bénira ».
Oui, mais c'est très malheureux parce que j'ai des preuves comme ça. Un monsieur qui a dit qu'on puisse l'aider lors de l'entretien parce que il était orphelin. Mais quand nous regardons sur son CV, c'est un monsieur qui avait 50 ans. Donc, il dit, aidez-moi, je suis orphelin, mais il avait 50 ans. Donc, nous lui avons dit tout simplement, tu es orphelin de la tête, parce que à 50 ans, tu ne peux pas te réclamer orphelin. Donc, tout simplement, ça prouve à suffisance qu'il y a trop d'insuffisance lorsqu'on aborde des questions aussi cruciales en ce qui concerne notre survie professionnelle. Oui. Et malheureusement, comme nous ne cessons de le dire, que le programme d'enseignement au Congo ne donne pas beaucoup de possibilités aux jeunes de maîtriser ces éléments clés, mais de notre côté, nous avons aujourd'hui mis en place un outil qui sert également à beaucoup de jeunes. Nous avons des témoignages éloquents sur le livre Passeport à l'emploi, beaucoup qui ont pu suivre ça à la loupe et aujourd'hui ils ont pu décrocher de l'emploi. Donc la troisième phase, si je dois terminer, c'est la phase plus ou moins qu'on appelle la phase après-test. Une fois que vous terminez...
Un instant, Yves Daniel, on va accueillir deux auditeurs, Symphorien et Bidoya, de Kananga et Alain Roy, ils sont tous les deux dans la même ville. Symphorien, bonjour. Bonjour Symphorien.
Bonjour à tous, la radio Café.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce thème sur l'entretien d'embauche?
Oui, merci, c'est un thème vraiment trop intéressant pour nos jeunes et surtout jeunes universitaires. Bon, j'ai deux petites questions à poser à notre invité. Concernant l'entretien, je ne sais pas comment ça se passe. Si je veux, par exemple, me préparer à un entretien d'embauche, je dois le faire par rapport au poste ou soit tous les entretiens d'embauche se préparent de la même manière. Et concernant aussi l'évaluation des convenances que monsieur l'invité venait d'évoquer tout à l'heure, concernant les salaires. Si on me demande, par exemple, de dire je veux qu'on puisse commencer à me donner combien à la fin de chaque mois, et que supposons que c'est dans les mêmes, par exemple, des banques, et les gens, par exemple, touchent là-bas 1 000 $, c'est un exemple que je donne. Et moi, je disais, par exemple, 300 $. Qu'est-ce qui va alors se passer? Ça sera une bonne réponse, soit ça va me disqualifier, merci.
D'accord. Alain Roy, vous êtes aussi à Kananga, bonjour.
Bonjour, Alain, bonjour, bonjour, bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Alain?
En fait, je voudrais d'abord demander les idées. Est-ce que ce service est organisé aussi dans le service public? Ça, c'est la première question. En plus, j'ai encore un témoignage. Il y a une école approximative ici, auquel le président a inscrit son enfant et donné les cours. Parce qu'en fait, on fait la course de couture, c'est qu'il faut. Alors, je vois, c'est cette personne en train de donner les cours de l'humanité. Troisième, en fait, question. Est-ce qu'il y a un apport du gouvernement central par rapport à ce service? Ce service est organisé partout. Et aussi dans le service public, je vous remercie.
Oui, on n'a pas très bien saisi la deuxième question. Alain, pouvez-vous la répondre, s'il vous plaît?
La deuxième question, c'est...
Désolé, la communication, la communication n'est pas très bonne, Alain Roy, depuis Kananga. Nous retenons la question des symphoriens de Kananga. Tous les entretiens se préparent de la même façon. Alors, il va dans une entreprise où on paye les gens $1,000, mais lui, il demande $300. Est-ce que il a bien répondu à cette question ou pas? Yves-Daniel Ngavan.
Oui, merci. Je crois que je suis en train de donner les phases essentielles que toute personne doit suivre lorsqu'on prépare n'importe quel entretien d'embauche. On doit commencer par la phase de la préparation. On doit se préparer de manière technique, de manière psychologique et de manière physique. Mais on doit savoir assurer lorsqu'on sera en face du recruteur en termes de l'évaluation de personnalité, en termes d'évaluation de la conformité au regard du poste. En termes de la convenance, là on parle de la question de salaire, on doit se convenir sur la rémunération, mais aussi en termes d'évaluation de la motivation. Et en ce qui concerne la troisième phase, si vous permettez, c'est la phase juste après test, qui consiste à écrire dans les 72 heures une lettre de remerciement à l'entreprise pour avoir participé à l'entretien, mais aussi de pouvoir faire les suivis tous les 21 jours lorsqu'on n'est pas toujours appelé. Mais en ce qui concerne le salaire, je l'ai dit tout à l'heure, on ne se fixe pas les salaires pour le plaisir de les faire. Donc, aujourd'hui, nous avons compris que beaucoup de gens se fixent les salaires au regard de leurs problèmes sociaux. Or, c'est une erreur assez grave parce que l'entreprise ne vous paye pas au regard des difficultés que vous avez. Et on ne se fixe pas un salaire parce que tu vois que l'entreprise a des beaux bâtiments et les gens qui sont là, ils s'habillent bien, ils sont véhiculés. Et toi, tu viens, tu te dis, bon, je vais aussi être payé comme eux. Non, le salaire a d'abord fonction, un, des niveaux des diplômes, deux, des niveaux d'expertise ou de l'expérience. C'est en fonction de ces éléments que tu peux arriver avoir une idée sur les chiffres. Il faut toujours s'informer aussi, parce que il est bien que chez nous, les questions de salaire sont des questions taboues, mais dans d'autres pays, c'est connu. On sait que pour tel profil de personnes, dans tel type d'organisation, la fourchette est de telle. Mais même chez nous, il suffit de vous informer. C'est ça même le rôle de coach. Quand on a un coach, il permet aussi d'avoir des seuils de certaines rémunérations par rapport aux entreprises. Donc quand on doit donner un chiffre, comme je dis, on donne pas un chiffre, on donne une fourchette. On ne doit pas non plus se sous-estimer en demandant faiblement. Parce que quand vous demandez tellement faible, on va remettre en cause même vos compétences. On dit, mais comment il ne se connaît même pas? Oui. Comment il peut
demander $300
avec ses diplômes, avec des compétences qu'il nous présente? Donc c'est quelqu'un qui est suspect. Mais si aussi vous demandez trop cher, on sent que c'est quelqu'un qui vient juste pour se remplir des poches, parce que s'il est vraiment un vrai professionnel, il ne pouvait pas nous demander une telle somme au regard de son expérience et des diplômes qu'il détient. Donc c'est question de jouer de la diplomatie pour continuer les dialogues en donnant une fourchette. Carrément, comme j'ai dit, reposer la question au recruteur et savoir qu'est-ce que l'entreprise a prévu. C'est un échange. C'est pas un péché de poser la question, parce que l'entretien, au fait, c'est un échange.
Voilà, vous pouvez aussi poser des questions au recruteur. Malonga, vous êtes à Bandundu-Ville et Jules Kazadi à Lubumbashi. Malonga, bonjour.
Bonjour aujourd'hui et bonjour à notre invité.
Nous parlons aujourd'hui de comment répondre aux questions du recruteur lors d'un entretien d'embauche. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Malonga?
Ok, merci beaucoup. Bon, tout ce que l'invité vient de dire là, oui, c'est bien. Ces questions d'embauche, avant d'être engagé définitivement dans une entreprise, en tout cas, sont bonnes. Mais moi, je vois souvent que il y a d'autres questions qui font complication au candidat.
Lesquelles, par exemple?
Par exemple, ce que l'invité vient de dire là-bas, c'est des dialogues. Si vous entrez dans des dialogues, vous verrez qu'il y a des questions que l'employeur cherche vraiment à vous créer encore des problèmes. Malgré qu'il vous a très bien déjà écouté, mais par exemple, ce que l'invité vient de dire, que l'UNICEF. L'UNICEF, c'est quoi? Oui, il y a d'autres qui est qualifié et qui est riche en matière, mais il peut être en oubli de bien vraiment expliciter l'UNICEF là. Mais dans sa fonction qu'il aura là-bas, il saura bien défendre ça. Mais si, par exemple, il n'arrive pas à expliquer l'initiative très bien, bon, est-ce que ça peut être vraiment une cause valable de ne pas être engagé dans une entreprise? Par exemple, ici, moi je suis enseignant. Souvent dans notre comité, il y a des demandes d'emploi. Si on arrive à ces questions d'embauche, moi j'ai une question seulement à poser à ce nouveau enseignant, à se solliciter, de dire que de m'écrire NUTT. C'est un grand problème, s'il vous plaît, je dis. NUTT. En tout cas, plus je n'arrive pas à réussir ça. Or, il prononce pas bien, il prononce ça très bien et il parle le français très bien. Alors moi, je dis que vous voulez être enseignant et vous n'arrivez pas à écrire NUTT. Qu'est-ce qui va nous prouver vraiment que
vous êtes enseignant?
Bien enseigné ici.
Oui.
Alors tout ça, je vois que de part et d'autre, il doit y avoir vraiment de la sagesse et de la compréhension, comme l'invité vient de dire là-bas, dans des dialogues, et de connaître à fond que non, celui-ci mérite ou bien celui-ci ne mérite pas.
D'accord, merci.
C'est ce que je...
oui.
La question.
Oui, la question.
La question est ceci. Quel rapport y a-t-il entre ces questions d'embauche et les fonctions sollicitées par les candidats?
D'accord, merci. Jules Kazadi, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce sujet?
Parce que ça, c'est un petit exemple. J'ai un ami qui a présenté deux fois à l'examen d'État, mais il n'a pas pu raccrocher son diplôme. Mais c'est un, il est très compétent, il est compétent en tout cas. Il travaillait dans une entreprise chinoise, donc il était chargé des achats, et puis il faisait des planifications dans cette entreprise-là, donc il touchait aussi beaucoup d'argent. Malheureusement, cette entreprise-là avait fermé, alors il n'a plus là, il est au chômage. Alors je me pose la question, s'il veut postuler, repostuler, qu'est-ce qu'il peut faire selon notre expert qui est en ligne? Et alors la deuxième question, si quelqu'un pendant l'interview il est en train de trembler parce que il y a d'autres personnes qui ne sont pas habituées d'être interviewées,
oui.
On les voit même sur les procès, les autres qui n'arrivent même pas à se défendre.
Oui.
Alors il est compétent.
Mais il tremble,
alors,
oui.
Comme il est en train de
trembler, il ne sait pas
ça,
bien répondre.
Il est disqualifié comme ça.
Oui.
Et pour cela, moi j'ai dit, il fait, c'est nécessaire d'avoir aussi les psychologues du travail, parce que quelqu'un peut trembler devant pendant l'interview, mais s'il y a un psychologue là-bas, on peut les retenir, mais au fur et à mesure, on pourra les découvrir que non, ce monsieur, il est compétent. Donc voilà ce que je voulais juste poser à l'invité là. Merci.
Merci Jules Kazadi de Lubumbashi. Comment répondre aux questions du recruteur lors d'un entretien d'embauche? Yves-Daniel Gavan, expert en ressources humaines et l'invité d'Okapi Service. Dieudonné nous appelle des Mahagi. Bonjour Dieudonné.
Oui, bonjour, Radio Kadi.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce sujet?
Oui, merci vraiment de me sélectionner vraiment à ce sujet vraiment intéressant du jour. Aujourd'hui, monsieur l'animateur, j'ai une petite question à poser vraiment à monsieur l'invité. Ma question est vraiment de savoir, parce que partant de l'expérience que nous avons vécu un jour avec mon frère, quelque part dans un service,
oui.
Justement, nous avons déposé notre demande d'emploi dans un service comme ça. Alors, une fois que nous avons déposé cette demande d'emploi, alors, ce qui était vraiment là, on a trouvé que non, il n'y a pas moyen que non, on était avec mon frère qui le poursuit. Alors, tout justement, on a déposé aussi la lettre de la demande d'emploi dans cette service, monsieur Adé, avec mon petit frère. Alors, ce qui nous est vraiment, ce qui m'a étonné, c'est que, justement, les chefs du personnel nous a dit que non, il n'y a pas moyen vraiment de mettre vraiment des enfants de la même famille, de la même mère, même frère, vraiment dans un service. Est-ce que tout justement, c'est ça ma question, je veux tout justement poser à monsieur l'invité, sinon est-ce que comment vraiment, est-ce que vraiment ça, est-ce que...
Il n'y a pas eu... Oui. Il n'y a pas eu...
Comment est-ce... Est-ce qu'on peut embaucher des enfants de même famille dans un service?
Bon,
c'est ça.
C'est
ma question, monsieur, vraiment.
Oui.
Ok, c'est ça vraiment ma question.
Dieu donné, bon, je vois que c'est
de la part de...
Oui, votre.
C'est de la part de monsieur Benjamin Guillaume et Mike.
D'accord. Deux personnes d'une même famille, voilà. Je ne sais pas si vous étiez déjà, vous êtes présentés tous les deux à un entretien d'embauche. Ben, d'accord, on aura les détails tout à l'heure avec Yves-Daniel Gavan. Le temps d'accueillir Esokoa des Kindou. Bonjour Esokoa.
Ah, bonjour grand frère, bonjour aussi à l'invité.
Bonjour
à tous les journalistes de la radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce sujet?
Oui, exactement. Merci Daniel. Premièrement, j'ai regret avec l'invité parce que j'ai son numéro dans mon téléphone et je l'avais appelé mais il ne m'avait pas répondu. Ok, pour revenir à notre sujet,
oui.
Je demande à l'invité, j'ai des questions à poser.
Oui.
La première question, quel niveau que demande la traité d'embauche? Parce qu'aujourd'hui nous avons tant de diplômes ici au Congo, je ne sais pas quel niveau qu'on demande parce que le diplôme dans notre Congo vraiment n'a pas vraiment du respect. Hein? Nous avons des diplômes qui sont dans le pays, mais il n'y a pas d'emploi. Deuxième, même si vous avez accédé à la réussite d'entretien d'embauche, mais on vous demande la corruption. On vous demande la corruption, il faut amener une chèvre pour que vous soyez accepté dans un emploi. Est-ce que de telles situations, de telles exigences sont prohibées ou bien sont acceptées? Merci. Bonne journée.
Bien, merci à vous, Esokoa, depuis Kindou Mulungé. Yves-Daniel, vous avez suivi toutes ces préoccupations. Commençons par celle de Malunga qui dit qu'un candidat peut ne pas connaître la signification de l'UNICEF, mais il est compétent. Vous lui posez la question de savoir c'est quoi l'UNICEF. Bon, il peut balbutier, mais il est compétent. Pourquoi ne pas le prendre et puis quand il sera dans la boîte, eh bien, il connaîtra réellement ce que c'est l'UNICEF.
Oui, merci beaucoup, Jody. Malunga, j'étais à Bandundouville récemment et je ne l'ai pas vu. J'aurais vraiment envie de les rencontrer, mais qu'à cela ne tienne, on aura toujours le temps. Tout le monde parle compétence. Je crois que si j'ai publié les livres Passeport à l'emploi, c'est à cause de cela. Aujourd'hui, tout le monde se réclame compétent. Mais finalement, c'est quoi être compétent de toutes les façons? Quelqu'un qui n'a pas un diplôme, comme l'a dit l'autre ami, et qui n'a pas un diplôme, mais on dit qu'il est compétent. Celui qui ne connaît pas la signification de l'UNICEF, mais on dit au moins qu'il est compétent. Mais finalement, nous devons nous mettre d'accord pour définir c'est quoi une compétence. Mais la compétence en soi, c'est la mise en œuvre en situation professionnelle de ses capacités afin de faire un travail de manière convenable par rapport à un métier. Alors, quelqu'un qui ne connaît même pas le nom de l'organisation pour laquelle il a postulé, mais je pense que celui-là, c'est un véritable aventurier professionnel. Parce que comment tu veux aller épouser une fille et tu ne connais même pas son nom? Tu arrives à la parcelle, tu dis, voilà, c'est une fille qui a des mèches. Que j'ai vu ici qui avait des mèches. Mais quel est son nom? Non, je connais pas, mais au moins elle a des mèches. Mais c'est inacceptable. Donc on doit prendre très au sérieux la question de la recherche de l'emploi et notamment la question d'entretien d'embauche. Donc tu ne peux pas venir nous relater des choses soit disant que je ne connais pas votre entreprise, mais au moins je suis compétent. Mais je pense que parmi le premier élément de la compétence, c'est ne fût-ce que d'avoir de l'information sur l'entreprise pour laquelle vous êtes en train de postuler. Alors, quelles sont les questions, le rapport qui existe entre les questions d'embauche et la fonction qu'on doit occuper? Mais si on doit recruter, comme je l'ai dit, d'abord on prépare l'offre qu'on doit rendre publique. Ensuite, on doit faire la sélection et à la fin, c'est la signature du contrat. Donc, on ne peut pas vous questionner ou vous interroger en dehors du cadre qui est l'offre qui a été publiée. On ne peut pas demander à un médecin lors d'un entretien d'embauche des questions liées à la construction d'un bâtiment. Ça n'a pas de sens. Donc, les questions sur lesquelles on va vous poser, c'est là où j'ai parlé lors de l'évaluation. J'ai parlé de l'évaluation de la conformité au regard des exigences de poste. Donc, toutes les questions qui seront posées,
oui,
ce sont des questions qui sont en lien direct avec les exigences qui ont été demandées à l'offre.
Donc, alors, par exemple, si on vous demande, par exemple, qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter des nouveaux ou des plus dans notre pour faire avancer l'entreprise, comment répondre à une telle question?
Oui, c'est très simple cette question. Votre rapport, c'est par rapport aux tâches et responsabilités présentées déjà dans l'offre. Si dans l'offre, par exemple, on a besoin de quelqu'un qui sait faire le suivi et évaluation de projet, c'est quelqu'un qui maîtrise la planification, quelqu'un qui peut rédiger un bon rapport. Donc, référez-vous à ce qui a été dans l'offre. Et dites que vous êtes capable de faire ces choses. Donc vous dites que non, je vais apporter ma capacité à faire le suivi de projet de manière efficace avec la gestion axée sur les résultats. Je suis à même de rédiger des très bons rapports en temps réel, ainsi de suite. Donc tu essayes de rester dans l'offre. C'est ça aussi une erreur que les gens commettent, qui ne prennent pas suffisamment le temps de décrypter l'offre pour connaître quels sont les temps forts et surtout la partie où on traite des exigences en termes de tâches et de responsabilités. Parce que c'est là où on a toutes les réponses à donner aux recruteurs en ce qui concerne le travail que vous allez faire.
Alors Jules Casady nous dit un candidat peut se présenter à un entretien d'embauche, mais il tremble tellement qu'il n'est pas en mesure de bien répondre. Alors d'après lui, il faudrait qu'il y ait aussi des psychologues dans le panel des recruteurs qui peuvent comprendre que le candidat est capable, mais c'est à cause de la peur qu'il n'a pas pu bien répondre et puis le retenir.
Oui, vous savez, il y a une sorte de frousse qui prend tout le monde lorsqu'on devient, on est en face d'un examen ou de l'entretien d'embauche. C'est un sentiment naturel qui arrive à tout le monde, mais qui ne doit pas dépasser 10 minutes, 20 minutes. Donc, je parlais de la préparation psychologique ou la préparation mentale. Donc, les gens qui stressent le plus, ce sont des gens qui vont dans les domaines pour lesquels ils n'ont pas de compétences ou ils n'ont pas suffisamment d'informations. Ce sont des tentateurs, les gens qui tentent. Mais quelqu'un qui connaît de quoi il est capable, imaginez-vous, une question assez simple. On dit que nous, venez à l'entretien d'embauche et là-bas, on va vous demander les noms de vos parents. Est-ce que tu vas stresser parce qu'on te demande le nom de tes parents? Est-ce que tu vas vraiment trembler? Tu ne vas pas trembler parce que c'est naturel, tu connais ces choses, tu connais tes parents, et c'est facile de donner le nom de tes parents. Mais quand ce sont des choses que tu ne maîtrises pas au départ, et on sent que tu es stressé du début à la fin, c'est un problème. D'où l'importance d'avoir une préparation psychologique avant d'affronter cette étape. Oui, les psychologues, il y en a toujours. Généralement, dans les entretiens d'embauche, il y a aussi des psychologues qui sont là. Mais ils ne seront pas là comme votre mère qui doit vous calmer. Non, s'il te plaît, ne faut pas te stresser, ainsi de suite. Non, ils seront là pour essayer d'atténuer d'une manière tantôt d'une autre. Mais c'est plus l'ignorance qui fait que les gens stressent davantage. Donc voilà, un peu, il faut chercher à combler cette ignorance et vous verrez que vous n'allez plus trembler lors de ce genre d'entretien.
Voilà, on va plus trembler lors de ce genre d'entretien. Il y avait une autre question de Jules Casady, je crois, qui parlait de son ami qui est compétent, qui travaillait plus, et puis maintenant il voudrait également avoir un emploi. Comment il doit faire pour sortir du chômage? Et Dieudonné de Mag qui nous dit deux frères se présentent dans une même entreprise. Bon, lors de l'entretien, on découvre que ils sont de la même famille et on dit qu'on peut pas les retenir. Alors, il voulait savoir que faire dans ce cas-là.
Par rapport à Jules, son ami doit aller chercher son diplôme parce que lorsqu'on veut devenir professionnel, on doit avoir une qualification. La compétence ne suffit pas, mais il faut être qualifié à cette compétence ou à ce genre de métier. Donc, je ne me vois pas pourquoi il doit s'interdire d'aller continuer les études ou faire certaines formations pour avoir une certification par rapport à ses compétences. Donc, nous ne pouvons pas lui demander de continuer à chercher le travail sans qualification au préalable. Donc, c'est plus simple qu'il rentre aux études ou qu'il fasse des formations afin de pouvoir avoir une certification ou un diplôme par rapport au secteur qu'il a choisi. C'est mieux. Et deux frères qui arrivent à l'entretien d'embauche, nous ne sommes qu'à l'entretien d'embauche, nous ne sommes même pas encore à la phase de la signature de contrat. Donc je pense que l'entretien, on ne peut pas refuser des gens à interroger des gens parce qu'ils sont d'une même famille, ça n'existe pas. Mais est-ce qu'ils peuvent travailler dans une même famille, deux personnes? J'ai dit oui, mais tout simplement, ça dépend aussi de la politique générale de l'entreprise en matière de recrutement. Parce que vous ne pouvez pas me priver de travailler avec mon frère parce que nous sommes de la même famille, alors que nous avons de secteurs d'activité différents, et aussi nous avons des profils différents. Et le malheur pour moi, c'est du fait qu'on a le même nom. Non, ça n'a pas de sens. Donc au travail, on ne vient pas faire l'apologie des familles et de noms,
mais on vient pour expérimenter ses compétences. Donc l'entreprise qui a besoin effectivement d'être performant, elle doit plus se focaliser sur les compétences que sur les éléments de famille ou des éléments ethniques ou tribales ou encore des liens qui n'ont rien à voir avec la situation professionnelle. Mais Esoko a aussi qui a appelé les Kindou, qui dit que je prends pas des appels. Bon, je pense qu'il faut toujours essayer. Nous avons un numéro qui est suffisamment sollicité.
Pouvez-vous d'ailleurs le rappeler, parce qu'on va terminer par là, comme on n'a plus assez de temps. Les auditeurs peuvent poursuivre la discussion après cette émission.
Oui, c'est toujours le même numéro, le 081 166 21 26 que nous nous sommes donné, donc 081 166
21 26. Oui.
Donc la corruption, il a parlé des niveaux des diplômes. Je pense que oui, il suffit pas d'avoir un diplôme, mais d'avoir des compétences annexes à ces diplômes, parce que on ne recrute pas seulement à cause des diplômes, mais c'est plus en termes de l'expression des éléments de ces diplômes que nous appelons la compétence. Mais la corruption, Esoko, à la corruption, personne ne peut accepter la corruption. La corruption, c'est une antivaleur que nous devons tous combattre avec la dernière énergie. Donc, on ne peut pas te demander de donner une chèvre pour accéder à l'emploi. Donc, ce sont des pratiques qu'il faut dénoncer et décourager. Mmh. Parce que si on veut avoir une vraie valeur professionnelle, ça doit s'établir sur base de l'exercice de nos compétences et non sur base des antivaleurs ou encore des pratiques qui ne sont pas correctement acceptables.
Bien, docteur Yves-Daniel Ngavan, expert en ressources humaines, merci.
C'est moi qui vous remercie.